Midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission n'a pas changé, confinement ou pas, vous montrer que oui, la France bouge, se bouge et se mobilise et que même face à cette crise sanitaire, il y a des hommes et des femmes qui agissent pour que la société se relève. C'est évidemment ensemble que nous y parviendrons. Il faut penser, préparer la suite et certains secteurs se demandent à quoi va ressembler cette suite. C'est le cas notamment des restaurateurs et c'est avec eux que nous serons aujourd'hui jusqu'à 14h parce qu'il y a, vous allez le voir, de nombreuses initiatives qui ont vu le jour, soit pour maintenir un semblant d'activité, soit pour imaginer évidemment ce qui va se passer demain. Pour les recenser et faire un tour complet de la question, elle est à mes côtés chaque jour, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous, je suis à vos côtés depuis ma maison, comme vous hein, Raphaël.
Et oui, 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 toujours à distance, mais toujours ensemble.
Distance. Exactement. Vous êtes allé au restaurant, enfin non, là vous n'allez pas y aller,
non,
mais vous avez
commandé. Je cuisine, évidemment.
Vous n'êtes pas fait livrer ?
Mais je cuisine beaucoup, ça me fait passer le temps. Vous aussi d'ailleurs, je crois.
Ah bah, entre le travail et la cuisine, on a de quoi faire.
Bon, alors c'est vrai que la cuisine, on va s'y intéresser de près aujourd'hui avec nos invités qui vont, vous allez le voir, nous emmener aux quatre coins de France où naissent les bonnes idées. On rejoint tout de suite Alain Fontaine. Bonjour Alain Fontaine.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Vous avez, depuis le début de la crise du Covid-19, décidé de mettre en place une hotline pour aider justement tous les restaurateurs qui sont désemparés, qui ne savent pas vraiment comment faire avec cette crise sanitaire. C'était quoi l'idée ? C'était vraiment de leur apporter les premiers éléments ?
L'idée, c'est de ne rien lâcher maintenant et après. Et donc, effectivement, maintenant, il y a une inquiétude énorme, puisque nos restaurants, en général, mais les maîtres restaurateurs aussi, on a fermé en 4 heures. Donc, c'est un choc pour des gens passionnés comme le sont les maîtres restaurateurs. Et en même temps, c'est une inquiétude considérable, puisque pour la plupart d'entre nous, c'est une situation qui n'était jamais arrivée. Donc, il fallait absolument les rassurer. Pas les laisser dans ce flou qui est considérable quand vous fermez votre affaire en 4 heures. C'est même pas, je veux dire, en comparaison, c'est même pas un dépôt de bilan, une liquidation judiciaire où vous êtes préparé par les mandataires et ceci et cela. Là, c'est d'un seul coup, vous fermez. Et donc, il faut tout mettre en place. Et c'était important de les aider, de les rediriger vers, bien entendu, tous les organismes qui se sont mis en place au fil des décrets par le gouvernement. Ça, c'est une première chose. Et puis, c'était aussi de leur expliquer comment fermer leur établissement. Certains ne l'avaient jamais fermé.
Alors justement, quand vous dites leur donner toutes les bonnes clés, c'est quoi ? Qu'est-ce qui revient comme question ? À quoi vous êtes confronté quand d'un coup, d'un seul comme ça, il faut baisser le rideau ?
Alors, la première chose sur la hotline, je rappelle le numéro parce que c'est important, parce qu'on a eu des bugs
avec 01 73 04 99 89, c'est bien ça ?
C'est super, voilà, je vois que vous êtes très bien informé, bravo. Et donc, la question qui est revenue très très souvent, bien sûr, c'est le chômage partiel. Ça, c'est énorme, parce que la plateforme a bugué, enfin elle a bugué, non, elle n'a pas bugué, elle a été très 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 sollicitée, bien entendu, les réponses tardaient, et ça a été vraiment un souci, parce qu'un souci de deux manières, d'abord pouvoir s'inscrire, nos experts comptables, tous ceux qui s'occupent de nous avaient du mal, mais le questionnement, bien entendu, de nos employés, parce que, comme vous le savez, la restauration, c'est un métier d'hommes et de femmes, c'est important, et ils posaient des questions, ils ont des familles aussi à nourrir, et donc on est sur quand même des baisses de salaire qui ne sont pas anodines du tout, et bien entendu, il fallait répondre bien sûr aux employeurs que sont nos adhérents, mais par eux, ils doivent répondre bien entendu à leurs employés. Donc la principale des questions, c'était le chômage partiel.
Alors, vous restez avec nous. Je voudrais me tourner une seconde vers Elisabeth parce que ce serait bien qu'on fasse une photo. Elisabeth, il y a combien d'emplois aujourd'hui dans le secteur de la restauration ?
On estime à 740 000 le nombre de salariés, 220 000 non salariés, ça veut dire que ce sont des emplois saisonniers, qui travaillent donc dans le secteur hôtellerie-restauration. Et 9 entreprises sur 10 sont des TPE, des entreprises de moins de 10 personnes. Donc c'est aussi pour ça que c'est tout à fait important de voir comment est-ce qu'elles vont évoluer, comment elles vont pouvoir résister, se sortir de cette crise majeure.
Et puis une donnée importante aussi, c'est que avant l'arrivée de la crise sanitaire, la situation manifestement n'était pas véritablement fameuses.
D'après le cabinet Gira Conseil, toutes les formes de restauration étaient touchées parce qu'avant la crise, il ne faut pas oublier qu'il y a eu énormément de grèves. Donc avec les grèves de fin d'année et la mise en place du télétravail qui a déjà eu lieu pendant la période de grève, hein, décembre, janvier, les gens allaient déjà moins manger au restaurant. Et même quand ils travaillaient, qu'ils pouvaient se déplacer, ils mangeaient sur le pouce à midi. Donc il y a eu dès le début d'année, il y a eu une baisse de 10 à 15% déjà à l'heure du déjeuner. Et alors le soir, on atteignait déjà des baisses de 40 à 60%. Je vous parle encore depuis le début de l'année parce qu'avec les grèves de décembre, janvier, bien les gens rentraient chez eux très tôt pour pas rater le dernier train quand il y en avait.
Oui, ça c'était la situation avant la crise sanitaire du Covid-19. Alain Fontaine, on comprend d'autant plus vos inquiétudes aujourd'hui pour toute une filière.
Alors, c'est des inquiétudes réelles, puisque nous, ça fait effectivement 5 ans maintenant, depuis les attentats, où les trésoreries sont exsangues, parce que n'oublions jamais que la France est le pays le plus visité au monde. Et donc, non seulement, bien entendu, il y a bien sûr les Français qui vont moins au restaurant de par les grèves, de par les gilets jaunes, et après les attentats, mais aussi les touristes qui sont venus, qui ont déserté la France pendant 2 ans, en 2016 et 2017, et qui, pendant les gilets jaunes aussi. Donc ça a donné que les trésoreries de nos restaurants sont exsangues d'une part, et je voulais revenir effectivement sur les TPE, ce sont des couples souvent, et des couples qui travaillent ensemble. Donc si vous voulez, c'est des gens qui... Et je le dis avec beaucoup de tranquillité, c'est des gens qui peuvent se retrouver à la rue dans quelques mois parce qu'ils n'ont rien d'autre que leur passion et leur restaurant. Et donc c'est pour ça que on les renseigne, on les aide, on les soutient. Et puis il y en a aussi.
Vous les aidez. Oui. Et puis vous avez aussi, pardonnez-moi, mis en place une autre initiative qui est complémentaire, qui permet, si j'ose dire, de conserver une petite partie d'activité sur la plateforme. Vous avez 75 maîtres restaurateurs qui se sont portés volontaires pour faire justement de la livraison à domicile.
Alors tout à fait, si vous voulez, on avait l'outline, mais l'autre chose, c'était effectivement que nos maîtres restaurateurs qui le souhaitent puissent continuer à travailler si bien sûr les mesures d'hygiène étaient respectées pour de la livraison à domicile. Car il ne s'agit pas d'ajouter au problème terrible que nous connaissons aujourd'hui, qui est le Covid-19, un problème d'hygiène. Donc on a demandé à des maîtres restaurateurs qui sont capables de le faire, de faire de la livraison à domicile, ce qu'ils font très bien, la plateforme marche bien. Et puis aussi, il y a plein de maîtres restaurateurs qui sont des passionnés, mais qui sont des hyperactifs, qui souhaitaient savoir comment ils pouvaient aider. Donc ils se sont portés volontaires, on a créé une plateforme avec les organisations professionnelles agricoles, on a créé une plateforme, enfin on leur a demandé de s'inscrire sur une plateforme pour se porter volontaires, pour aller faire les cueillettes, les récoltes et autres ramassages, et on a plus de 60 maîtres restaurateurs qui sont portés volontaires, eux et leurs équipes, bien sûr, en respectant toutes les gestes barrières. Et puis également, on a lancé nos maîtres restaurateurs pour aider les petits producteurs et on a signé des pétitions, on a sollicité nos maires, nos préfets et nos députés pour que les marchés de plein air rouvrent. Et c'est ce qui s'est passé en partie. On a aidé à tout cela. Donc on est complètement investi. Et puis notre dernière opération, parce qu'on sentait qu'il fallait...
Restez avec nous, on a le temps d'en parler, mais je voudrais qu'on accueille ensemble, s'il vous plaît, Laurent Trochin qui est en ligne et qui nous attend aussi. Bonjour Laurent Trochin.
Bonjour.
On part dans les Yvelines avec vous, hein. Vous êtes chef étoilé, votre table c'est le numéro 3. Et dès le 10 mars, vous, au début de la crise, en fait, vous avez senti un peu les choses monter. Vous avez constaté une baisse d'activité avec un couple d'amis que vous connaissez depuis longtemps. Vous vous êtes dit, il faut agir. C'est comme ça que vous avez lancé le mouvement Resto Ensemble.
Voilà, tout à fait, avec Stéphanie et Joanne Leclerc qui sont eux à La Rochelle et mon épouse Julie, on se connaît depuis 30 ans et on échange tout le temps et on a senti un peu le vent venir et on s'est dit attention, on crée un petit groupe WhatsApp déjà entre nous pour échanger des informations et très vite, on est arrivé le vendredi 13, il y avait encore plus d'animation et le samedi 10, c'est arrivé ce qui est arrivé, donc on a agrandi ce cercle avec des amis restaurateurs, donc sont venus nous rejoindre Nicolas et Solange Adam, Sébastien Richard, Caroline Savoie, et de là on est parti en disant prenons les choses en main dès le dimanche, et le lundi on a créé des groupes WhatsApp, on a créé un site internet, et l'aventure est partie du collectif Resto Ensemble.
Oui, donc l'idée c'était là aussi de regrouper en un seul endroit toutes les démarches administratives à faire. Et depuis mercredi, vous allez plus loin parce que vous avez décidé de lancer Chef en Péril. Qu'est-ce que c'est Chef en Péril ?
Alors, on a lancé Chef en péril, c'est-à-dire c'est une action où nous demandons. On fait des demandes. On fait des demandes au gouvernement, on fait des demandes aux assureurs. Donc, l'action Chef en péril, c'était de demander au gouvernement de déclarer l'état de catastrophe naturelle sanitaire. Et on demande aussi aux assureurs d'appliquer la perte d'exploitation prévue au contrat. Donc, c'était très clair pour nous. Et derrière ce chef en péril, surtout, c'est qu'on ne parlait pas uniquement des chefs de cuisine. On parle du chef d'entreprise en général, parce que derrière nos entreprises, c'est des restaurateurs, c'est des hôteliers, c'est des captiers, mais c'est aussi des artisans, des producteurs, des fournisseurs. Et surtout, la pièce centrale, ce sont nos salariés. On veut défendre nos salariés. Donc, cette action était importante pour l'ensemble de notre métier.
Oui, et si on vous suit sur les réseaux, on a vu hein, fleurir, y compris dans la presse quotidienne régionale, sur les différents sites, des restaurateurs qui sont avec en selfie, avec une pancarte, hashtag chef en péril. On les voit un petit peu partout en France aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Il faut comprendre, c'est qu'on reçoit entre 40 et 50 courriers jour, mails jour, où les gens sont désespérés. Les gens demandent à être informés. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se préparent, mais il n'y a pas assez de clarté. Donc, ils ont vraiment pris pour eux cette action de chef en péril. Et ce collectif appartient à tout le monde, petit et grand. Dans notre collectif, on a deux groupes WhatsApp où on a 250 personnes. Il y a du restaurant de la petite crêperie au restaurant 3 étoiles. On a 7000 abonnés sur Facebook. C'est pareil. Donc, on est vraiment sur une communauté élargie.
Oui, communauté élargie. Alors justement, parmi les choses qui peuvent vous aider, même si parfois ça peut paraître dérisoire, Elisabeth, il y a une prime hein, qui est versée aux petits patrons des cafés et des restaurants.
Une prime de 1500 euros, c'est ce qui a été annoncé, pour qu'ils ne mettent pas tout simplement la clé sous la porte pendant cette période de confinement. Le ministre de l'Économie a donc proposé un versement forfaitaire donc de 1500 euros via un fonds de solidarité de 2 milliards d'euros alimenté par l'État et les régions, pour notamment donc pour les patrons des PME. Alors qui peut en bénéficier? Il faut que l'établissement ait fait l'objet d'une fermeture administrative et qu'il ait subi une perte de 70% de son chiffre d'affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019, ce qui est je suppose le cas de la plupart, et ça concerne les TPE de moins de 20 salariés sont évidemment concernés.
Oui, c'est vrai que c'est un chiffre important, hein, c'est 1500 euros, même si sur une trésorerie, ça peut paraître une petite goutte d'eau, mais voilà, c'est toujours ça de prix. On va rester ensemble jusqu'à 14h pour regarder comment la filière restaurant, restaurateur se met en place, se mobilise pour aider justement les toutes petites entreprises à s'en sortir. Merci d'avoir été en direct avec nous et on attend toujours au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte vos appels et vos commentaires.
Europe 1.
On reste ensemble à 13h17. Quand pourrons-nous retourner au restaurant? C'est la question que nous nous posons tous, évidemment. Et vous allez voir que les initiatives se multiplient quand il s'agit de sauver un secteur.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
3921, hashtag radio ouverte. On vous attend évidemment pour réagir. C'est vrai qu'on a tous conscience en ce moment de vivre une période unique dans l'histoire. Au fur et à mesure que les jours passent, on mesure aussi combien le coronavirus va laisser des traces, quel que soit notre métier, quel que soit d'ailleurs le secteur de l'économie dans lequel on travaille. Bonjour Stéphane Jégot.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes vous aussi maître restaurateur, un patron de la Mijan dans le 7e arrondissement à Paris. Vous avez lancé une pétition avec Stéphane Perrotte qu'on avait reçue dans la France Bouge d'ailleurs, qui est artisan confiturier, célèbre artisan confiturier, pour que l'état de catastrophe naturelle, et on en parlait, sanitaire, soit reconnu. Manifestement, ça pose problème, mais vous dites il va falloir se saisir de cette question parce qu'il va falloir que les assurances nous indemnisent.
Ben oui, justement, on a lancé cette pétition avec Stéphane et le Collège culinaire de France également, d'une façon simple. On a eu depuis différentes années, on a eu les gilets jaunes, nous avons les attentats, nous avons eu les grèves comme vous avez évoqué tout à l'heure. Donc là, on a tous fait la même démarche, on a appelé notre assureur, on a été débouté de la même façon. Ce n'est pas pris dans vos contrats. D'accord, très bien. Là, on a eu le coronavirus qui est arrivé, on savait évidemment que ce n'était pas pris dans nos contrats, c'est sûr. Ça, je suppose qu'il faut quand même arriver à un moment, faire bouger ces contrats. Il faut à un moment les faire évoluer. Donc les dommages collatéraux par rapport à nos entreprises, qui peuvent être malheureusement le coronavirus, ou même une canalisation de gaz qui peut exploser au bout de notre rue, quand nous fermons nos établissements, même si c'est pour un service ou une journée, nous avons une perte d'exploitation. Donc nous demandons, nous, aux assurances, justement, de nous mettre autour de la table pour ouvrir ce dialogue, de réfléchir comment est-ce qu'on peut, bah, dans l'urgence, là, dans l'urgence actuelle, pour justement emmener et pallier à ce qui se passe là, pour que les entreprises puissent être sereines dans l'ouverture. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, les 1500 euros, certes, je suis d'accord avec vous, c'est mieux que rien, mais il faut quand même voir que les 1500 euros, c'est quand même une petite, petite goutte d'eau. Quand vous prenez la mission avec 18 salariés et que vous divisez ça par le nombre de salariés, ça fait 83 euros par personne. Je pense que c'est un petit peu taquin de la part des assurances. Là, 220 millions au pot, certes, ça peut paraître une grosse somme quand vous l'annoncez comme ça, mais quand...
Oui, Émilie Cariou, qui était avec nous tout à l'heure, Émilie Cariou, qui était avec nous, la députée de La République En Marche, nous disait qu'effectivement, elle pensait que le bon chiffre minimum, ce serait 2 milliards. Ce serait l'effort qu'il faudrait que les assureurs consentent pour, compte tenu notamment des bénéfices qu'ils font, qui sont à hauteur de 200 milliards d'euros.
Voilà, 2 milliards peut-être, mais est-ce que ça va être alloué à la perte du chiffre d'affaires ou ça va être alloué à toutes les entreprises? Le problème, c'est comment le répartir. Parce que... Quand on a eu les grèves au mois de décembre, on a eu un mouvement social, c'est très bien. Peu importe qu'on soit d'accord ou pas. Mais il faut savoir que déjà, ça nous a fragilisés. Là, il y a les petites entreprises où ils ont un écosystème déjà fragile. Et pour réouvrir leur établissement, il va falloir refaire le stock. Il va falloir reprendre du personnel. Est-ce qu'on va prendre la totalité du personnel ou pas? Est-ce que la guerre économique qui est en train de se propager là, qui se propage mondialement, alors après la guerre sanitaire, comment ça va se passer? On est dans l'incertitude. Nous, on est complètement dans l'incertitude de comment on va être demain et comment on est maintenant. Nous, ce qu'on demande aux assureurs, c'est justement de peut-être lever cette incertitude pour au moins obtenir un dialogue. On n'est pas là justement pour mettre les assureurs acculés. Là, non, on veut simplement avoir au moins un dialogue.
Se mettre autour d'une table pour pouvoir parler véritablement du problème. Que vous dit le gouvernement? Parce que cette lettre, vous l'avez envoyée au gouvernement, cette lettre ouverte.
Oui, tout à fait. Là, on a emmené cette lettre au gouvernement. Hier, nous avons mis sur papier l'étude que nous avons faite depuis 10 jours avec ma compagne pour justement montrer un petit peu... les assurances ont emmené des arguments. Par exemple, le risque de pandémie n'est pas assurable. On a démontré que c'est assurable. Ça a déjà fait jurisprudence. Différent, justement, que l'algorithme également des assurances ne va pas fonctionner par rapport à ce qui se passe là, parce qu'ils auraient plus de dépenses que de rentrées. On leur a prouvé que c'était faux. Donc, la lettre qu'on a fait passer là sur à côté de la pétition, on a démontré et prouvé que, justement, il y avait possibilité de se mettre autour de la table et de discuter et d'avancer. Nous, la proposition qu'on fait, c'est on ne veut pas tout bouger, tout changer, on ne veut pas ruiner les assurances. Au contraire, on veut qu'ils soient nos partenaires du quotidien. La proposition qu'on fait, c'est mettons un intercalaire dans nos contrats d'assurance et dans ces intercalaires, ajoutons des faits.
Oui, et la solution, pardon de vous interrompre, mais la solution viendra peut-être de la réassurance, qui en général prend le relais des assurances quand elles n'ont pas les reins suffisamment solides ou quand elles n'ont pas les solutions. C'est d'ailleurs, je crois, ce qui s'était passé en 2009, parce que le risque pandémique avait été à l'époque intégré par le numéro 1, le numéro 2 de la réassurance.
Exactement, parce que les gens ne pensent pas ça à la réassurance. Là, je vais vous donner un petit chiffre simple. C'est en 2018, les assurances sur un chiffre d'affaires en France étaient de 220 milliards. Mais la réassurance, c'est-à-dire donc ils se réassurent, était de 234 milliards. Donc, je pense que le pot commun peut être un petit peu plus élevé que 220 millions ou même que 2 ou 3 milliards. Là, c'est justement ce pot commun là qui va permettre à toutes les entreprises, petites et moyennes, l'hôtellerie et restauration, mais également à ton coiffeur, à ton le papetier du coin, à faire justement, c'est-à-dire voilà, demain, j'ai cette petite vision, c'est-à-dire voilà, je peux réouvrir, pas sereinement, parce qu'on n'est pas serein, mais on a quand même cette lueur d'espoir. Mais il ne faut pas oublier quand même que nous avons une multitude de personnes autour de nous, mes employés, les apprentis, nos producteurs, nos éleveurs, Donc c'est aussi nous
c'est tout un écosystème, une centaine de métiers qui gravitent autour de vous finalement. Restez en ligne avec nous, je voudrais qu'on accueille ensemble Vincent Varnier qui va dans le même sens finalement mais qui a cofondé un mouvement baptisé Sauver mon bar. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes étudiant en fait hein, et voilà, avec un de vos amis vous avez décidé d'aider à votre manière les bars et les restaurants. Vous êtes dit, on a du temps libre pendant ce confinement, donc on va réfléchir. Et vous avez eu l'idée de mettre en place des cartes cadeaux qui seront utilisables quand l'établissement rouvrira ses portes, c'est ça ?
Voilà, c'est exactement ça en fait. Lorsqu'on a vu la détresse des bars et des restaurants, on s'est dit qu'on allait profiter de notre temps libre en confinement pour les aider. Donc en fait, le principe, il est simple. Les clients des établissements peuvent acheter des cartes cadeaux mises en vente au préalable par les gérants. Et en achetant une carte cadeau, ils font un geste solidaire qui permet aux gérants de dégager de la trésorerie aujourd'hui. La carte cadeau est ensuite utilisable dans l'établissement, donc dès sa réouverture, comme vous l'avez dit.
Donc ça permet de maintenir un semblant de trésorerie pour finalement l'établissement qui a fermé ses portes.
Voilà, c'est exactement ça en fait. L'objectif, c'est que l'établissement puisse dégager aujourd'hui de la trésorerie en vendant des cartes cadeaux. Et l'avantage qu'il aura, c'est que cette vente de cartes cadeaux est pour lui une sorte de garantie d'avoir des clients à la réouverture, parce que on ne sait pas comment ça va se passer à la réouverture. Et les clients qui viendront, ils viendront généralement accompagnés. Hein. C'est ce qu'on fait quand on va dans un bar. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais dans un bar ou un restaurant. Donc, ça veut dire qu'il y aura aussi de la trésorerie grâce à ces cartes cadeaux qui rentreront à la réouverture.
Ouais. Vous avez recensé combien de restaurants, combien de bars aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on compte une cinquantaine de bars et de restaurants en France. Donc il y a de plus en plus de gérants qui commencent à comprendre un petit peu l'intérêt de cette démarche et qui viennent tous les jours s'inscrire sur notre site. Donc tous les jours, on en compte un petit peu plus et on espère que ce mouvement continue. Ce qu'il faut que sachent en fait les gérants, c'est qu'il est très important qu'un maximum de bars et de restaurants s'inscrivent sur notre site, qu'ils soient dans le besoin ou non, parce qu'en fait, chaque vente effectuée permet d'alimenter cette démarche qui vise à aider les gérants les plus en difficulté, d'où la notion finalement de démarche solidaire.
Elisabeth, vous avez une question à poser, je crois.
Oui, c'est aussi une façon de fidéliser une communauté hein, de clients. Comment réagissent vos partenaires, hein, les bars avec lesquels vous travaillez, ils viennent vers vous, c'est vous qui allez vers eux, comment ça se passe ?
Alors en fait, la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de nous faire connaître. Mais on a utilisé différents moyens en fait pour se faire connaître, notamment la publicité Facebook. Et en fait, on a eu des retours de gérants qui ont trouvé la plupart des gérants qui voient en fait ce qu'on fait nous disent que c'est une super idée et donc ils viennent s'inscrire. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs partenariats avec des restaurants et des bars aussi. Et donc ce qu'ils font eux, c'est qu'ils partagent sur leur page Facebook, ils en parlent à leurs clients. Et l'objectif, en fait, c'est de faire grossir cet élan de solidarité. Mais vraiment, on a des très bons retours des restaurateurs et des gérants de bars qui se sont inscrits aujourd'hui sur notre site.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous en direct. La France bouge, continue et se mobilise aujourd'hui pour aider les restaurateurs. Il est 13h30.
Europe 1.
Et on reste ensemble jusqu'à 14h, bien sûr. Des plateformes, mais aussi des cagnottes en ligne pour aider les restaurateurs sont en train de fleurir. Leurs créateurs sont avec nous sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Vous le savez, pour pouvoir sauver une filière, et aujourd'hui on s'intéresse à celle de la restauration, il faut s'unir. C'est ce qui se passe aujourd'hui, justement, dans ces métiers. Bonjour Florent Balbranche.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être en direct avec nous cet après-midi sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de la plateforme Brigade. Ça s'écrit B-R-I-G-A-D, je le précise. Votre idée à vous, c'est d'essayer de mettre en place justement des mesures d'urgence pour aider les utilisateurs de votre plateforme ?
Tout à fait. Alors Brigade, c'est en effet une plateforme qui met en relation des indépendants qui sont qualifiés avec des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et on est plutôt là pour intervenir quand il y a des pics d'activité, ou en tout cas des absences et des besoins. Et en effet, en ce moment, c'est une période extrêmement particulière, et donc des pics d'activité, il n'y en a pas beaucoup. Et donc il y a moins de missions postées sur la plateforme, et donc on a une communauté Il y a à peu près 15 000 freelances en France et pas que d'ailleurs, on est présent au Royaume-Uni aussi, qui se retrouvent en difficulté. Donc le premier réflexe qu'on a eu, c'était évidemment sécuriser cette communauté. Et donc sécuriser cette communauté, c'était petit un, lui assurer un revenu. Donc on a assuré, on a garanti le revenu des utilisateurs et des, on les appelle les brigadeurs, qui étaient le plus actifs sur la plateforme pour qu'ils se sentent en sécurité sur le mois de mars. Donc on a garanti 75% du revenu moyen qu'ils avaient touché sur les mois précédents pour le mois de mars. Ça, c'est une mesure
donc,
d'urgence qu'on a mise en place.
Ça peut considérer, ça peut toucher des serveurs, des chefs, des gens qui travaillent
exactement.
En cuisine, hein, c'est ça?
Exactement. Ça va toucher, alors chez nous, ça va être plusieurs centaines de personnes qui vont être concernées par ce dispositif, qui, je le répète, est un dispositif d'urgence. C'était vraiment, la crise a démarré mi-mars. Il y a des gens qui ont des loyers à payer à la fin du mois et qui ont besoin de payer leurs factures. Et donc, il fallait qu'on mette ça en place le plus rapidement possible. Donc ça, c'est une décision qu'on a prise tout de suite. On pense qu'en tant que plateforme, on avait une responsabilité vis-à-vis des freelances qui nous utilisent pour trouver du travail. Et donc ça, on l'a fait dans un premier temps. Après, évidemment, et ça, je suis extrêmement content et je remercie d'ailleurs les différents ministres qui sont impliqués sur le projet pour créer ce fonds de solidarité pour les indépendants, auquel on a beaucoup participé à la réflexion autour des conditions d'accès à ce fonds qui a été mis en place et qui va permettre de garantir aussi, enfin de venir compenser la perte de revenus des indépendants sur le mois de mars, le mois d'avril, j'espère le mois de mai, ça n'a pas encore été annoncé, et tout le temps qu'il faudra.
Vous avez aussi mis d'autres choses en place. Alors, il y a l'espace spécifique Covid-19brigade.co, il y a une hotline, il y a une aide aussi pour les frais de santé. Vous avez vraiment essayé finalement d'être là où on va avoir besoin de vous si nécessaire.
Tout à fait. Et puis, je pense que, alors, on essaye, même si c'est une crise et que c'est difficile pour tout le monde, on essaye de trouver du positif, en tout cas de transformer certaines choses chez nous. Et moi, je suis un des grands défenseurs de la responsabilité des plateformes qui sont malheureusement trop souvent décriées et pas à juste titre. Et donc, on essaye de, enfin, moi, j'ai vraiment à cœur de montrer dans ces moments-là, les plateformes prennent le problème à pleine main et sont capables de proposer des solutions innovantes, intelligentes, en s'appuyant notamment sur la technologie. Un des services dont je suis le plus fier qu'on ait lancé là, c'est quelque chose qu'on appelle Brigade Academy, en partenariat avec d'autres services qui nous permettent de proposer des formations à notre communauté de freelance, puisque en effet il y a peu de missions en ce moment, bah, c'est un bon moment pour se former, et donc il y a tout un panel de formations gratuites, évidemment en ligne, qui sont proposées actuellement et qui rencontrent un franc succès.
Elisabeth, on a pas mal de choses qui se mettent en place du côté des plateformes, effectivement.
Mais oui, effectivement, vous le disiez, les plateformes, elles prennent vraiment le problème à bras-le-corps. Elles le font bien, elles soutiennent nos restaurateurs. Par exemple, chez Uber Eats, les frais de livraison sont gratuits. Ils ont mis en place une ligne téléphonique pour passer commande, pas besoin de passer forcément par Internet, par l'appli. Ils font des produits alimentaires du quotidien, et ainsi que des produits non alimentaires, une livraison hyper sécurisée puisque c'est une livraison sans contact. Deliveroo aussi, eux ils mettent des gels hydroalcooliques à disposition de tous les livreurs. La plateforme offre même aux livreurs des consultations médicales en vidéo. S'il y a le moindre doute, ils n'avancent aucun frais, tout est mis à leur disposition et l'entreprise rembourse 25 euros au livreur pour l'achat de matériel de protection sur présentation du justificatif de paiement. Donc voilà, les plateformes jouent le jeu et grâce à leurs moyens techniques, elles le font très très bien et elles permettent aux restaurateurs de continuer pour certains d'entre eux à vivre.
Alors, vous restez avec nous, évidemment, et on va s'intéresser, puisqu'on en parlait, on parlait des plateformes, il y a aussi des cagnottes qui se mettent en place, comme celle que vous avez lancée. Stanislas Richard, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de l'Union des commerçants et artisans de Mamère et Saosnois, on dit comme ça?
Saosnois,
d'accord. Vous avez eu l'idée le week-end du 21 mars, je crois, de se dire il faut faire quelque chose, il faut jouer la carte de la solidarité avec les restaurateurs et de manière plus générale avec les commerces impactés par la crise.
Oui, donc il m'est venu l'idée de créer donc un groupe sur Messenger et d'intégrer un maximum de commerçants, artisans et restaurateurs sur ce groupe pour justement pouvoir échanger les idées et puis les problèmes de chacun. Et puis, donc, dans ces échanges, est venue l'idée de créer une cagnotte.
Alors, Cagnotte, que vous avez conçu comment?
Donc, on l'a conçu sur le site Litchi. Nous avons mis un petit commentaire par rapport aux commerçants et artisans. Et puis après, nous avons mis sur les réseaux sociaux donc, cette cagnotte. Et puis donc aujourd'hui, on est rendu à presque 4000 euros donc, sur la cagnotte des commerçants et artisans ce mois.
Oui. Combien de commerces ont dû baisser le rideau, justement, de restaurants sont concernés dans votre
Alors,
secteur?
Sur les restaurateurs, on est restaurateurs. Et sur un ensemble de commerces, il faut compter une bonne quarantaine de commerces qui sont fermés.
Oui, une bonne quarantaine. Donc, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui va durer jusqu'à quand, cette cagnotte? Vous avez mis une fin pour...
Elle est valable 40 jours.
Mmh. Donc on peut faire un geste pour aider, ça va peut-être donner voilà, des idées à d'autres communes finalement de se mobiliser, à d'autres unions des commerçants. Vous avez déjà eu des coups de fil peut-être?
Oui, j'ai déjà eu des demandes pour savoir comment ça se passait et tout ça. Donc je pense que oui, l'idée va être reprise et ça permettra d'aider pas mal de commerçants et artisans.
Ouais. Oui, c'est important de jouer cette carte de la solidarité. Et c'est ce que vous nous disiez aussi, hein, Florent Malbranche. On le voit, finalement, tout le monde se serre les coudes, quel que soit le métier. On essaye de jouer à fond cette carte de la solidarité.
Tout à fait. Et si d'ailleurs, je peux rebondir en présentant une cagnotte qui va exactement dans le même sens à laquelle nous, on participe. C'est un collectif qui s'appelle les Acteurs Solidaires, qui est un ensemble de sociétés. Alors, au début, il y en avait 9 et puis ça s'élargit de plus en plus. Et qui, en fait, le but ultime, c'est de livrer des repas aux soignants. Mais en fait, il y a toute une chaîne de valeur qui se crée, et notamment en travaillant avec les restaurateurs, avec les commerces de proximité, en récupérant des denrées, en faisant travailler des gens. Et en fait, on recrée une chaîne qui convient et qui respecte les mesures de sécurité actuelles et qui va du coup faire à la fin qu'on livre des repas aux soignants en ayant valorisé tout un tas de métiers et de services entre les deux. Et aujourd'hui, c'est une collègue qui a récolté un peu plus de 30 000 euros. On a prévendu plus de 8 000 repas qui sont livrés dans différents hôpitaux à Paris, mais pas que. Donc on voit en fait qu'il y a fait cet élan de, bah, même plus que de solidarité, moi je dirais de créativité. Et souvent, bah, dans ces situations difficiles, il y a beaucoup de bien qui en ressort, et il faut capitaliser là-dessus à fond.
Beaucoup de bon sens.
Exactement,
aussi.
Exactement. Et quand on entend que les choses ne seront pas tout à fait pareilles après, j'espère que ce sera ce type d'initiative qui continuera.
Oui, on l'espère aussi. Alors justement, puisqu'on parlait de livraison, Elisabeth, les restaurants ont la possibilité de suivre cette tendance de la livraison aujourd'hui? Qu'est-ce
Alors,
que vous avez
ils
constaté
ont, ils ont la possibilité, mais c'est vrai que quand on regarde autour de nous, petit à petit, même si au début ils se sont dit on va se mettre à livrer, eh bien il y en a beaucoup qui progressivement ont fermé leurs portes les unes après les autres parce que c'est toute une nouvelle logistique à mettre en place. Parce que aussi c'est du personnel qui est peut-être malade, qui habite loin, donc c'est compliqué à organiser et à mettre en place. Il y a aussi bien des restaurateurs indépendants que des grosses enseignes, hein, comme Sushi Shop ou McDo, qui ont décidé d'arrêter. D'autres ont choisi de poursuivre, par exemple Deliveroo a communiqué sur 1400 nouveaux restaurants depuis début mars. Donc voilà, il y en a qui se sont mis très largement à saisir cette opportunité. D'autres, au contraire, ont fait le choix de fermer, tout simplement.
Et puis, on pourrait s'arrêter aussi sur une autre initiative qui est importante, c'est celle de la fourchette. Enfin,
ah oui,
je dis
la fourchette. Mais maintenant, ça s'appelle The Fork, hein, c'est son nouveau nom, qui livre désormais. Eux aussi, vous savez, ce site internet vous permet de réserver un restaurant depuis cette plateforme. Là, aujourd'hui, ils ont changé leur activité, évidemment, puisqu'on ne peut plus aller au restaurant. Donc, pour soutenir l'activité des restaurants, The Fork, la fourchette, permet à sa communauté de commander. Ils ont mis un service qui est gratuit pour les restaurateurs. Et c'est surtout, c'est à noter que c'est un service qui s'est mis en place hyper rapidement et avec juste comme seul objectif de venir en aide aux restaurateurs. Vous pouvez voir quel restaurant livre et la fourchette The Fork vous met en relation.
Merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous dans La France Bouge aujourd'hui. Il est 13h42, on continue à s'intéresser aux restaurateurs. Et vous allez voir que les restos routiers aussi se mobilisent car le trafic continue pour les transporteurs. Il fallait donc leur garantir un service.
Europe 1, La France Bouge, Raphaël Duchemin.
Pour que nous puissions manger, être livrés, bref, que l'économie même au ralenti hein, puisse continuer à tourner, il y a évidemment des métiers qui, eux, ne sont pas en confinement. C'est le cas, par exemple, des transporteurs routiers, mais plusieurs nous ont alertés dès le début de la crise sur le hashtag Radio Ouverte au 3921 en nous disant si les restos routiers ferment, alors où est-ce que nous allons manger? Où est-ce que nous allons tout simplement pouvoir nous reposer ou prendre une douche? Bref, de vraies questions du quotidien. Bonjour Julien Salvestrini.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous avez, vous, décidé de cofonder un groupe Facebook Resto Routier pendant le Covid-19. Racontez-moi comment elle est née cette idée.
Elle est tout bêtement, juste après l'élocution du président Macron samedi, comme quoi il fermait les restaurants, le dimanche, j'étais avec mon épouse, on discutait, et j'ai dit mais on va faire comment pour manger, pour se laver, s'il ferme les restaurants, on fait comment? Donc j'ai eu l'idée de créer un groupe Facebook, et on verra bien si ça sert à quelqu'un, si ça apprend un petit peu, si j'ai des retours, et aujourd'hui, donc 15 jours plus tard, on est un peu plus de 23 000 membres sur le groupe. On a réussi à référencer un peu plus de 2 400 restaurateurs, donc restaurants routiers ou transporteurs qui sont prêts à nous ouvrir les portes. Alors, pour les transporteurs, attention, c'est les sanitaires, hein, je précise, et les restaurants,
bien
c'est
sûr.
Des plateaux repas. Voilà, c'est pas, on n'est pas assis à salle comme au resto. Non, c'est des plateaux repas, on mange dans nos camions. Donc ça va pas mettre par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, à ce que justement, eux, ils ont une économie entre guillemets normale, même s'il y a quand même beaucoup moins de monde qu'avant, mais ça permet aussi d'avoir une rentrée d'argent. Et nous, ça nous permet de pouvoir continuer à travailler correctement dans des conditions à peu près correctes.
Oui, parce que vous avez été nombreux à nous écrire hein, dès le début en disant « Mais attendez, mais dans quelle situation on va se trouver ? Nous, on va être enfermés dans nos camions avec aucune possibilité de s'alimenter. » Donc c'est vrai que ça posait pas mal de questions. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour recenser ? C'est vous qui faites la démarche vers les restos routiers ou l'inverse ?
Non, c'est l'inverse. C'est le bouche à oreille. Hein, ça va vite sur Facebook maintenant. C'est donc les restaurateurs qui me contactent en disant voilà, tiens, moi, je suis à tel endroit, je propose le plateau repas de telle heure à telle heure. Donc nous, on a créé avec les administrateurs, on a créé une page, une carte en fait Google qui référence tous ces points sur la France. Même on a même des points en Espagne, en Italie, en Allemagne, un peu partout maintenant parce qu'il n'y a pas que des Français qui roulent en France. Donc ça aide un peu tout le monde. Et en fait, donc, ils nous contactent et nous, on met un petit point sur la carte. Voilà, tel endroit, vous avez tel restaurant qui ouvre et qui propose des plateaux repas.
Oui, ça marche bien, ça dépanne vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous en servir.
Bah écoutez, on est plus de 23 000 membres sur le groupe. Vu les retours qu'on a tout le temps, quasiment jour et nuit, parce qu'il y en a qui roulent aussi de nuit, oui, apparemment, ça sert à beaucoup de personnes. Et je pense que beaucoup de restaurateurs, comme dit, ça permet aussi de rentrer un peu du chiffre d'affaires. Quoi. Et surtout, oui, pour nous, ça nous permet de travailler dans des conditions, comme dit, à peu près normales.
Oui, la possibilité de manger, c'est vrai que ça reste une des problématiques du quotidien pour vous qui êtes sur la route pratiquement toute la journée. Qu'est-ce que vous disent les restaurateurs qui vous contactent? Ils vous disent bah, c'était une bonne idée parce que nous aussi, ça nous permet de maintenir une activité?
Ben oui, c'est ça. Bon, c'est comme dit, c'est des restaurants routiers, donc ils sont à nos côtés toute l'année. Donc eux, ben ça leur permet de continuer à faire du chiffre, de continuer aussi à nous dépanner, à nous offrir donc les sanitaires, de nettoyer à chaque fois. Ça, je vous rassure, ils prennent bien leurs précautions. Mais voilà, ça permet que tout le monde justement puisse en sortir pendant cette crise, quoi.
Alors, justement, parler de cartes, Elisabeth, il y en a une qui est en place, qui a été mise en place par le Collège culinaire.
Oui, le Collège culinaire de France, c'est une association qui a été fondée par 15 grands chefs français, hein, il y a déjà 8 ans. Et là, cette association vient de mettre en place une carte interactive pour bien manger. Ça s'appelle, elle s'appelle comme ça. Sans forcément faire des heures de file d'attente près de chez soi, hein, à 1 mètre de distance, on peut, à côté de la maison, trouver d'excellents produits à portée de main. Donc vous pouvez aller voir sur le site du Collège culinaire de France cette carte interactive qui mentionne les différents produits producteurs, les différents restaurateurs qui font des plats préparés partout en France. Et donc, pouvoir manger et apprécier de bons produits.
Oui, c'est important, effectivement. Alors, vous restez avec nous, Julien Salvestrini. On va s'intéresser justement à cette question de la vente à emporter. C'est une des solutions pour certains pour pouvoir maintenir un minimum d'activité. C'est vrai pour la restauration. C'est vrai pour les brasseries aussi. Bonjour, Aurélien Picard.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le patron de la brasserie de l'imprimerie à Banalec, entre Quimper et Lorient, dans le Finistère. Et alors vous, ça fait 3 ans, hein, jour pour jour, que vous êtes ouvert. Et comme beaucoup, vous n'aviez évidemment pas vu ce coup dur arriver. Du coup, vous vous êtes dit, on va lancer une sorte de drive.
Oui, ça s'est fait, je crois, un peu comme tout le monde dans l'urgence et puis avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'on a fermé une première semaine. Mon frère qui travaille avec moi est du coup au chômage partiel actuellement et il fallait trouver une solution. Donc, comme on faisait de la vente à emporter avant, on s'est dit qu'on allait continuer sous une forme de drive. Donc, c'est un dépôt qu'on fait sur le parking et les gens font des précommandes et viennent retirer leurs colis sur des créneaux horaires qu'on définit avec eux.
Oui, alors ça a l'air tout simple comme ça, mais il a fallu quand même faire preuve d'inventivité. Je crois que vous avez récupéré un meuble à roulettes, c'est ça?
Oui, c'est ce que je disais, c'est système D. En fait, il a fallu prendre une décision à un moment, est-ce qu'on fermait complètement, comme on était dans le flou, un peu comme tout ce qui était dit au long de l'émission sur les différentes aides, fonds de solidarité ou chômage partiel. On était un peu dans le flou, donc à un moment, il a fallu réagir et puis essayer de trouver une solution. Donc oui, j'avais un meuble à roulettes, une boîte aux lettres qui me sert de caisse pour les dépôts d'argent. Quand les clients viennent retirer, ils mettent l'argent en fait dans cette boîte. Donc c'est vraiment de la bidouille, mais ça nous permet de continuer à vivre, en tout cas pour l'instant. Donc on va continuer en tout cas là-dessus.
Donc vous mettez les commandes sur le meuble à roulettes et vous faites confiance, hein.
Oui, c'est confiance tout à fait. Je suis pas avec une carabine en train d'attendre à la fenêtre. Hein. les gens, voilà, prennent leur colis et déposent l'argent. Et puis et ça se passe plutôt bien. Après, on a un avantage, c'est qu'on a une visibilité, c'est avec les réseaux sociaux. Donc ça, et puis la solidarité des gens. Si les gens sont au courant, et c'est vrai qu'ils sont très solidaires. Enfin, attention, petites entreprises locales. Et là-dessus, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur en tout cas.
Oui, ça vous permet de continuer, de vous dire que je vais pouvoir continuer à brasser mes bières, à vendre en petites quantités et avoir un minimum de trésorerie pour voir arriver la saison estivale.
Exactement, enfin, la saison elle commence maintenant. Donc c'est vrai qu'on est nombreux au niveau des brasseurs, entre collègues, on s'appelle ou on s'échange par mail. La grande inquiétude, donc nous on continue à travailler à minima, mais le plus inquiétant ça va être la saison avec la vente de fûts, d'événements, notamment en Bretagne, on vit beaucoup là-dessus au niveau des brasseurs, et là on sait pas du tout si les événements seront maintenus, tout ce qui va être festival, kermesse et autres.
Oui, pour l'instant, c'est vrai que tout est un petit peu en suspens. Elisabeth, je ne voudrais pas qu'on oublie les artisans, oui, producteurs et restaurateurs, hein, parce qu'il y a énormément d'initiatives un petit peu partout en France.
Énormément d'initiatives avec les, par exemple, il y a les plateformes qui misent aussi énormément sur les épiceries et les supermarchés. Il y a le fondateur de Dark Kitchen, eux, ils possèdent des cuisines 100% dédiées à la livraison. Ils travaillent avec les plateformes dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà, et depuis le début du confinement, hein, ils nourrissent, ils envoient leur livraison un peu partout. Ils ont énormément, ils ont fait une hausse de 100% de leur chiffre d'affaires en quelques jours. Et voilà, il en faut aussi des personnes comme ça pour pouvoir faire travailler les producteurs, les artisans et les restaurateurs.
Oui, qui prennent le relais et qui permettent à ceux qui sont en difficulté finalement de trouver de nouveaux débouchés. Vous
le
disiez tout à l'heure,
ouais.
On va peut-être devoir finalement réinventer notre manière de vivre et de travailler après cette crise. Est-ce que c'est aussi votre avis, justement, Julien Salvestrini, Aurélien Picard?
Oui, il me semble qu'on... Bonjour Aurélien. Oui, donc je pense qu'on n'a pas le choix de changer un peu notre fusil d'épaule, parce que hein, ce qui est fait en ce moment, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible.
Même chose Aurélien.
Oui, puis je pense que c'était déjà dans l'air du temps, un petit peu le retour à des choses plus vraies. commerce de proximité, que les gens sachent d'où viennent les aliments, à qui ils donnent l'argent. Et du coup, cette filière, je pense qu'elle s'est vraiment développée avec la crise sanitaire qu'on connaît. Et ça a engagé des gens à faire cette démarche qu'ils ne faisaient pas, et d'autres à continuer. Et je pense que ce changement va perdurer après la crise, quoi.
Et puis ce changement, on le voit, hein, ça crée d'immenses synergies qui nous paraissaient alors impossibles jusqu'à il y a encore 2-3 semaines, que ce soit les petits producteurs avec la grande distribution, ces plateformes de livraison que certains pouvaient regarder d'un mauvais œil, et bien finalement on est bien content de les avoir parce qu'elles font travailler et vivre des restaurateurs, des producteurs, des épiceries de quartier. Donc peut-être qu'on vient aussi dans toute cette période un peu compliquée, on s'aperçoit que des synergies sont désormais possibles.
Eh oui, comme vous le dites, et on va en continuer à en parler de ces synergies naissantes qui vont, je l'espère, perdurer. Merci en tout cas d'avoir participé avec nous à La France qui bouge, consacrée aujourd'hui aux restaurateurs. Il est 13h54.
Europe 1.
Et on reste ensemble, comme chaque jour, 39-21 et le hashtag Radio Ouverte, vos questions et les réponses de notre expert Roland Pérez.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
C'est l'heure de poser vos questions à Roland Pérez, l'avocat d'Europe 1 qui nous rejoint juste avant 14h. Bonjour Roland.
Salut Raphaël, salut à tous.
Alors nous avons une question pour vous posée par Monsieur Kopdevzaki. Il est salarié dans une pâtisserie.
J'ai entendu parler que la grande distribution allait donner une prime de 1000 voire 2000 euros. D'après Monsieur Bruno Le Maire, travaille dans une petite boulangerie-pâtisserie et je suis là tous les jours. Donc, je voudrais savoir, est-ce que le gouvernement a pensé à ces gens-là aussi? Parce que je pense pas que mon employeur ait les moyens de me donner une prime à l'heure actuelle. Et pourtant, on est là aujourd'hui tous les jours.
Alors, c'est vrai qu'ils sont là tous les jours parce que ça fait partie des commerces ouverts.
Et oui. Nécessaire, absolument. Alors la prime Macron a été totalement boostée et Bercy va rendre possible un doublement de la prime de 1000 euros et étendre la période de versement jusqu'au 31 août. Initialement c'était jusqu'à fin juin et concrètement même les entreprises qui n'ont pas mis en place de plan d'intéressement pourront verser cette prime qui sera défiscalisée et désocialisée, donc pas de charge sociale, exonérée de toute cotisation, jusqu'à 1000 euros et donc on pourra également la doubler, notamment on pense évidemment à tous ceux qui sont obligés de travailler aujourd'hui comme ce boulanger, ce pâtissier qui l'indique. On pense également évidemment au personnel soignant, personnel de pharmacie, au personnel infirmier dans les hôpitaux et cliniques. Tout cela pourront bénéficier de cette prime et même de ce doublement de cette prime.
Alors, autre question, Roland, pour vous. C'est André Xavier qui vous la pose. Si le chômage partiel existe pour les salariés, quid de la rémunération des gérants de PME?
Et oui, les géants de PME, comme ces restaurateurs dont vous avez parlé aujourd'hui et qui ont mis en avant toutes leurs actions, ces gérants de PME, eux, ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale s'ils ne travaillent pas et ils n'ont pas de chômage partiel. Ils se demandent comment ils vont faire face à toutes leurs charges. Alors, ce qui a été mis en place jusqu'à présent, ce sont à la fois des annulations d'échéances d'URSSAF, des mesures de soutien qui sont des allègements qui vont être mises en place avec des délais de paiement qui vont être également mis en place. Il faut s'adresser sur le site sécu-indépendant.fr. Ça, c'est le compte URSSAF qui va pouvoir être aménagé. Et puis, on parle de ces fameuses aides de 1500 euros et de 2000 euros. Pour ces aides-là, pour la première, elle a été assouplie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces entreprises qui réalisent moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui auront perdu 50% de leur activité et non plus 70% par rapport à mars de l'année dernière pourront bénéficier de cette aide de 1500 euros qui va être complétée par une autre aide, une aide de 2000 euros pour les situations les plus difficiles et qui va être versée au cas par cas par les régions aux entreprises qui remplissent également les conditions suivantes, à savoir qu'elles ont bénéficié de l'aide de 1500 euros dont on vient de parler et puis elles emploient au moins un salarié au 1er mars 2020. Donc ces aides sont mises en place aujourd'hui pour 1500 euros, elles vont peut-être être renouvelées également au mois d'avril et peut-être également au mois de mai. Voilà, ce sont des aides certes minimes, mais qui vont venir en aide à ces chefs d'entreprise, petites entreprises, qui eux ne bénéficient pas, comme on vient de le voir, du chômage partiel.
Merci Roland pour toutes vos explications. On vous retrouve évidemment demain juste avant 14h et on attend vos questions au 3921 sur le hashtag Radio Ouverte. Elisabeth Assayag, rendez-vous demain dès 13h pour la France Bouge. Nous parlerons demain des tests de dépistage.